jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Et nous poursuivons dans ce 40 nuances d'Antoine Hubert, cofondateur d'Insect. Antoine, tu es toujours avec nous car tu n'as pas quitté ton micro. On retrouve notre compère Olivier Mathieu.
Ravi de vous retrouver. Ce qui nous intéresse dans cette deuxième partie du podcast d'Antoine Hubert, c'est aussi de comprendre les ressorts du succès, l'homme derrière l'entrepreneur. Donc je crois que tu as une formation du coup scientifique, ingénieur agronome. À quel moment est-ce qu'on décide, quand on est ingénieur agronome, de devenir entrepreneur ? Quelle est la motivation, le ressort essentiel et vital qui fait qu'on franchit ce cap ?
Alors moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur particulièrement.
Punchline.
je suis arrivé par là par hasard et par entre guillemets. Non, c'est une succession de décisions progressives qui m'ont amené à ça. Et c'est aussi la rencontre des bonnes personnes au bon endroit, au bon moment finalement, avec mes associés, à Paris, sur des sujets qui nous apportaient. On aurait été à un autre coin du monde et 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard, ça serait pas fait. Donc non, une famille, plutôt dans mes grands-parents aussi entrepreneurs, c'est des artisans, des commerçants. Pour certains, donc il y avait peut-être je pense pas qu'il y avait un gène particulier, mais en tout cas je les avais vus quand j'étais plus jeune, voir mon grand-père qui était imprimeur notamment, aller le voir dans ses bureaux, donc je voyais lui qui avait son entreprise finalement, mais ça me parlait pas du tout. Après je trouvais ça sympa, mais c'est pas ça qui m'a guidé dans mes études. Et plutôt, je me souviens de copains sur la route ou de copines qui me parlaient, une chance marquante, qui disait que son père avait tout perdu en étant entrepreneur. Quand j'étais à l'école, c'était à l'école d'agro, et donc ça m'avait plutôt refroidi, même pas me dire que c'était intéressant d'être entrepreneur, c'est beaucoup trop risqué, et ça va jusqu'à peut-être détruire sa famille en fait. Donc ça donnait pas spécialement envie. C'est qu'après, c'est par l'engagement, je pense, l'engagement dans ce projet associatif, en partant en Nouvelle-Zélande, en rentrant, qui a fait que j'ai lancé ce projet. Mais ce qu'au départ, je voulais être un scientifique, je voulais être un chercheur, je voulais découvrir des choses, comprendre des choses. J'ai toujours voulu comprendre le monde dans lequel nous entoure, essayer de contribuer à ce qu'on préserve mieux la nature, effectivement, comprendre donc le passé, en étant, en voulant être paléobiologiste, paléontologue, comprendre le passé. Puis à un moment aussi, comprendre aussi peut-être pas le futur, mais l'autre, le plus loin, comme la vie dans l'espace, exobiologiste. Donc vraiment tout ce qui est à comprendre le monde autour de soi. Et donc comme on dans la science, en fait, on monte des projets. Un docteur, quand il fait sa thèse, il monte un projet. J'ai tenté de monter au moins 3-4 projets de thèse au fur et à mesure de mes envies qui ont évolué, qui n'ont jamais abouti parce que je passais finalement à autre chose. Jusqu'à un dernier, ou qui aurait été pu être financé par mes précédents employeurs comme Altran, dans le monde de la mesure de l'impact environnemental. Et puis finalement, Insect est arrivé à ce moment-là et j'ai laissé tomber. Mais je voulais, quand on monte un projet scientifique, on est docteur ou même après, en fait, on monte son projet, on doit d'ailleurs le financer et il faut lever des financements.
Très proche de l'entrepreneur.
C'est très proche de l'entrepreneur. Un scientifique est proche de l'entrepreneur, il doit tout construire. C'est quoi mon objectif? Je vais démontrer quoi et je vais aller chercher des éléments et construire mon discours et mes expériences et pour derrière trouver des financements pour me permettre de démontrer ça.
Tu as eu plusieurs sujets de thèse sur lesquels tu n'es pas allé au bout. Est-ce que c'est pas un peu la même chose avec le projet d'entreprise? On a une question de ton associé que tu as cité tout à l'heure, Alexis. On l'écoute et on revient à toi.
Vous avez un message?
Oui, salut Antoine. Écoute, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de te poser une question. Et ce, tout particulièrement dans le cadre de ce podcast 40 nuances de Next, dont tu sais que je suis un fan de la première heure. Alors, comme tu l'as peut-être déjà expliqué, comme tu vas l'expliquer aux auditeurs, on a eu cette idée des insectes au sein d'une association que tu as cofondée. Cette association était un lieu de réflexion très intense. Les idées de produire des insectes, c'est une idée qui pouvait paraître très très saugrenue à l'époque, qui, je l'espère, l'est un petit peu moins aujourd'hui. Mais pour autant, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que ça n'était pas l'idée l'idée la plus saugrenue que nous avions pu avoir. Et aussi pour que les auditeurs puissent être inspirés, comme tu sais si bien le faire, je souhaiterais et je serais très heureux que tu puisses leur parler des méduses et des corbeaux. Voilà.
C'est ce que j'allais dire. J'étais sûr que tu allais sortir les corbus et les morbus.
Et les morbeaux. Allez.
Les corbeaux, c'est ça, c'est plus, c'est toi, Alexis, effectivement, qui a trouvé cette idée d'aller dire, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les corbeaux pour recycler les déchets? Le fait qu'ils peuvent tout ramener, et ça nous a fait des mois tout ça à se marrer sur cette idée là et puis il y a une semaine Alexis m'a envoyé une vidéo de corbeaux qui recyclent des déchets avec des collecteurs. Ils vont dans les décharges, on leur apprend à les collecter des bouts de métaux, les ramener dans un endroit, et quand ils les mettent dedans dans une poubelle, ils ont une graine à bouffer, ils ont de la bouffe, donc ils sont très intelligents,
ils sont conditionnés,
ils reviennent, et un mec a trouvé un moyen de recycler. Génial. Donc on avait cette idée là, on n'a pas lancé, et ça fonctionne, donc c'est assez dingue.
Visionnaire déjà à l'époque.
Voilà, en tout cas on avait cette idée un peu saugrenue. L'autre c'est sur les méduses, là je suis convaincu aussi, là il y a une boîte qui a créé quelque chose à partir de méduses, mais on parle beaucoup de la gélification des océans, c'est-à-dire avec les problématiques de réchauffement climatique, de pêche peut-être trop fort dans certaines contrées, on a un appauvrissement des stocks de poissons, et derrière, qu'est-ce qui vient? Moi, c'est que les méduses, créatures encore plus ancestrales que les poissons dans l'évolution, prennent entre guillemets la place. Et donc, les méduses, on voit ce que c'est? C'est une sorte de gelée, voilà, et donc on parle de gélification des océans, avec des phénomènes d'invasion de méduses qu'on peut voir sur des plages en Europe, en Asie, enfin voilà, et des choses mais qui vont même dans les productions de saumon dans le nord. Parfois il y a eu des bandes méduses qui sont arrivées qui ont détruit l'ensemble des élevages de poissons. C'est là qu'ils sont arrivés, tous les poissons ont été empoisonnés effectivement et n'ont pas survécu. Donc on a une biodiversité qui est fondamentale, qui est préhistorique. Et on se dit, s'il y a une biodiversité, il y a peut-être aussi un intérêt pour l'homme, tout en respectant cette biodiversité-là et pas la surexploiter. On se dit, pourquoi on ne créerait pas qu'il y a des bateaux de pêche pour les collecter les méduses et en faire quelque chose d'intéressant, effectivement, pour l'homme.
On peut faire quoi avec une méduse?
Et réduire peut-être leur surpopulation à des endroits. Et en fait, la méduse, il y a des protéines, on pourrait faire de l'aliment, c'est beaucoup d'eau, mais on peut toujours extraire quelques composés. Et dedans, il y a le collagène, notamment. Le collagène, c'est très utile dans beaucoup d'applications, notamment médicales, mais aussi alimentaires. Il y a des composés très absorbants, et donc il y a une start-up, je crois que c'est israélienne, qui a mis au point une protection hygiénique féminine d'absorption à base de méduses. Voilà. Donc pourquoi pas? Il y a le collagène, et là je vois une boîte dans la Silicon Valley qui s'appelle, je crois, Geltor, qui a augmenté un collagène à partir de bactéries pour remplacer du coup du collagène animal vertébré. Pourquoi pas faire du collagène à partir de méduses? Donc il y a des technologies, il y a des bateaux qui peuvent embarquer des procédés sur place, où on peut transformer sur place. Je crois que dans le surimi ils font ça. C'est que c'est pas seulement on pêche quelque chose, on le transforme à terre, on peut transformer sur place, comme c'est plein d'eau. On va pas transporter beaucoup d'eau et on va essayer justement de le transformer et d'en faire des produits peut-être alimentaires. On en mange ici à Belleville, dans un restaurant chinois, on peut manger à Paris de la méduse. Donc ça se fait. Donc je trouve qu'effectivement il y a quelque chose d'intéressant là, mais c'est une idée parmi d'autres. Je ne saurais pas dire toutes les idées saugrenues qu'on a pu avoir dans le passé, mais à un moment on a parlé de faire des élevages de poissons ou d'autres choses en France, et aujourd'hui il y a AgriLoops qui a été créé depuis 2 ans, qui fait l'élevage de crevettes, et dont Alexis on est actionnaire et à la base aussi.
Son côté Forrest Gump.
Autiste. je sais pas, aucune prétention. Parce que c'est
t'es lancé dans l'élevage de crevettes.
C'est vrai, exactement. Excuse-moi. Non, t'as raison. Et on a pensé au début d'Agrilou,
c'était pas pour savoir si tu jouais bien au ping-pong.
Non, pas aussi. Un peu le ping-pong, mais oui, je sais plus comment il s'appelle dans le.
Booba.
Booba, effectivement. Et on a même pensé à appeler la boîte Booba quelque chose. Booba Farm, oui, tout à fait. Mais il y a plein d'autres projets. Moi, je suis aussi, et à peu dire l'agriculture, un autre grand pan essentiel, c'est l'habillement. Mais je trouve que le niveau vestimentaire, il se passe rien. Il n'y a pas d'innovation de rupture technologique qui nous permettrait d'arrêter notamment d'utiliser du polyester pétrolier, qui nous permettrait de relocaliser la chaîne de production. On parlait de la soie tout à l'heure. Un jour, est-ce qu'on pourra, nous, insectes, être capables de reproduire des verres à soie en France pour produire de la protéine en France, mais aussi de la soie pour les filières textiles françaises, locales et pas importées effectivement de Chine?
Compliqué.
Je pense pas. Tout est complexe. Encore une fois, complexe ne veut pas dire compliqué. C'est encore une fois, si on a les ressources, Si on crée un écosystème, pourquoi pas effectivement le faire? Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on a? Il y a d'autres fibres. Le lin qui est, la France est justement un des leaders mondiaux la production du lin. Le chanvre textile aussi. Donc il y a, voilà, on peut créer beaucoup de choses à partir du vivant et essayer peut-être justement de moins d'en importer du bout du monde et de faire moins de produits pétroliers et surtout réduire absolument le gaspillage vestimentaire qui est colossal. Enfin, la quantité d'habits aujourd'hui achetés par personne est monstrueuse par an. Est-ce qu'on n'était pas, même il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, encore moins. Et donc, comment faire effectivement répondre aux besoins mondiaux sans subir juste la pression de la mode, du changement permanent.
Antoine, quand je vois cette création... ou cette passion innovante chez vous, est-ce que vous favorisez, ou toi en tant que président et avec tes associés, est-ce que vous favorisez aussi les initiatives ou les idées un peu entrepreneuriales à l'intérieur de vos équipes? Est-ce que vous avez déjà peut-être certains collaborateurs qui sont partis créer leur startup, ou est-ce que vous encouragez ça? Ça se voit parfois hein, dans les grosses startups, effectivement, la vocation entrepreneuriale, la vision, la mission qui habite les gens et qui parfois ils ont envie de partir avec leur propre projet. Est-ce que vous encouragez ça? Est-ce que ça existe?
On a quelques cas, effectivement. Au sein d'Insight, c'est très compliqué. On ne peut pas créer un Google X aujourd'hui, entre guillemets, de faire des projets de rupture. Alors c'est déjà tellement complexe qu'on fait et il faut qu'on y arrive à délivrer notre projet à Amiens et qu'on réussisse international. On ne va pas complètement se défocaliser. Mon associé Jean-Gabriel, il porte des projets justement impact. Il porte tout un département impact là-dessus et on réfléchit à des choses en parallèle, enfin, vraiment liées à notre chaîne de valeur. Mais on ne peut pas faire un projet qui n'a, entre guillemets, rien à voir aujourd'hui. Ça veut pas dire que demain on va pas beaucoup plus se diversifier. Ça c'est prévu, c'est anticipé, c'est travaillé, mais il faut faire les choses étape par étape. Mais on a eu des cas de collègues qui sont partis monter leur boîte. On en est très très heureux. Il y a, je cite par exemple Florence qui il y a quelques années est passée, je crois un peu moins d'un an chez nous, et qui après elle a monté sa boîte et puis dans l'alimentation et qui après elle a réussi à la revendue à Phoenix, qui est donc une startup du gaspillage, lutte anti-gaspillage alimentaire, qui aujourd'hui est partie dans une autre startup chez Glowy. Donc voilà. Un exemple, elle est passée par chez nous. Il n'y en a pas 36 non plus, mais quelques-uns qui ont peut-être eu cette fibre entrepreneuriale et on en est ravis. Ouais.
Je reviens sur ton passé présent de scientifique. Tu as l'air de t'intéresser à beaucoup de sujets. Je serais curieux de savoir quelle est la plus grande découverte que tu aies faite sur le monde, ici sur Terre, dans les sous-sols marins ou peut-être de l'univers, si on regarde un peu plus haut. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont chamboulé?
Le vivant est juste... tous les jours, c'est incroyable ce que le vivant a créé après des milliards d'années d'évolution, pour tout en fait, dans ses formes, dans ses fonctions. Dans ces couleurs, dans tout ce que tu veux, tu retrouves les nouvelles espèces qui sont encore en découverte. C'est qu'on, j'entendais ce matin sur France Inter, oui, il y a encore tous les jours, on découvre des nouvelles espèces, c'est vrai, dans les expéditions scientifiques. Donc, on ne connaît pas encore le monde dans lequel on vit. On ne connaît pas encore le monde sur Terre, mais encore moins dans l'océan. Et on essaie déjà maintenant de comprendre ce monde au-delà de la Terre et dans l'espace. Donc c'est difficile comme question, mais il y a tellement de choses incroyables qui ont été découvertes par des scientifiques des ingénieurs depuis des milliers d'années en fait, hein, ce qui font qu'on a notre compréhension du monde dans lequel on est, qui fait qu'on a la croissance du savoir est absolument phénoménale ces derniers siècles et ces dernières décennies en particulier, et le numérique y apporte beaucoup aujourd'hui. Quand on sera capable, je sais pas, stocker de la donnée sur de l'ADN, il y a des choses qui, enfin, combiner comprendre le cerveau, voilà, ce qu'on voit, ce que c'est faire de Musk sur Neuralink, mais sur l'ADN en France, on a ADN Ascript, qui est une startup absolument incroyable, qui est en pointe justement dans son domaine. Donc, on voit que la France peut créer des grands innovateurs et des grands progrès fondamentaux. Là, on est vraiment dans du très fondamental qui sera appliqué après avec des gens qui vont s'emparer de ces choses-là. Donc, je pourrais pas dire qu'est-ce qui est le plus, des projets en tout cas qui ont une utilité derrière sociale forte. Moi j'étais beaucoup avec Alexis au début de l'association, on était vachement inspiré par toutes les entreprises bottom of the pyramid, les modèles BOP, c'est comment on crée finalement un business qui a un impact sur les 1 ou 2 milliards de personnes qui n'ont rien, qui n'ont que quelques centimes par jour. C'est ce que Danone a tenté de soutenir effectivement aussi, à faire avec le prix Nobel de la paix Mohamed Yunus en Inde, des yaourts qui coûtaient absolument rien. Et ce modèle-là, bottom of the pyramid, finalement, pour changer en fait la pensée en disant, on passe du modèle mécénat fondation un peu condescendante et quasiment coloniale des pays du Nord qui vont aider les pays du Sud avec un peu voilà, on va construire des écoles, on va construire des infrastructures, mais c'est pas voir ça comme une opportunité vraiment économique. On considère finalement ces personnes-là comme les autres, des consommateurs, mais avec des revenus extrêmement faibles, et leur proposer des produits bons de qualité mais qui sont abordables en changeant la façon dont on les produit. Ça c'est hyper inspirant. C'est une lecture, enfin les très longtemps, c'était c'est le prix Nobel kenyan Wangari Maathai qui un bouquin qui m'avait aussi beaucoup marqué justement sur cet engagement entrepreneurial dans la plantation d'arbres, l'agroforesterie en Afrique, au Kenya et au-delà, et comment c'est un instrument aussi pour la paix. Et aujourd'hui, je suis très content que mon associé d'ailleurs, il travaille sur ces sujets d'agroforesterie. C'est comment on pourrait influencer nos producteurs de matières premières, les déchets agricoles, les agriculteurs à changer même leurs pratiques et à faire de l'agroforesterie en France. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses inspirantes que ça donne toujours le tournis, finalement, de savoir d'où on vient, d'où on va, les questions fondamentales, effectivement, de l'homme, Dawkins, hein, finalement, dire qu'on est juste le gène égoïste, hein, qu'on emmène finalement du gène, c'est-à-dire qu'on n'est qu'un transporteur de gènes. Ça, je trouve ça, c'est une image assez frappante. Ou plus récemment, Yuval Harari qui disait que nous sommes que les esclaves du blé. C'est-à-dire que le blé nous a domptés et on fait que rendre service au blé pour ton expansion mondiale, parce que on fait que manger du blé partout, du pain, des pâtes. C'est la base de notre alimentation.
Tu as abordé la question d'où on vient, Antoine, excuse-moi de t'interrompre, et du coup ça peut nous intéresser, nous, de comprendre aussi d'où tu viens, d'où vient Antoine Hubert. C'est peut-être le moment de lancer la rubrique sur le canap pour bien rentrer dans la dimension un peu plus introspective de l'enfant que tu étais, qui est devenu un entrepreneur à succès.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Parce que tu nous as parlé de ton grand-père imprimeur. Et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre aussi pour nous, peut-être qui tu étais. Est-ce que tu étais un bon élève à l'école? Est-ce que tu avais déjà des engagements? Est-ce que tu luttais contre les injustices dans le monde? Ou est-ce que tu étais plutôt un gamin sportif et rêveur? Enfin, qui tu étais en gros? Et pour comprendre les ressorts qui ont fait l'entrepreneur que tu es devenu et qui a envie de transformer le monde, qui est déjà en train de transformer le monde.
Je ne sais pas si on est en train de le transformer. Enfin, à notre échelle, avec nos équipes, peut-être, mais on est encore très très loin d'avoir l'impact que je rêve d'avoir. Mais non, c'est pas très intéressant dans le sens une enfance assez classique, quoi. Mais voilà, en Savoie, à Aix-les-Bains, même si je suis né à Paris, mais mes parents sont partis quand j'étais tout petit. J'ai commencé tout mon circuit scolaire là-bas. Oui, je suis bon élève, oui, j'ai plutôt bosseur, donc voilà, timide, plutôt effacé, et pas être dans la cour de récré à faire, à corriger, entre guillemets, des injustices, loin de là, juste faire sa scolarité, mais autour de, en créant des noyaux d'amitié quand même très forts, qui sont toujours là. Et mes copains savoyards, voilà, c'est un élément clé de notre vie, ensemble, on a fait de la musique depuis toujours, ce qui était, je pense aussi, là, moi, une clé de l'entrepreneuriat, c'est les arts. C'est fondamental dans l'émancipation et dans l'apprentissage de la vie, du travail en groupe, notamment en collectif, pour la création commune d'œuvres. Je pense, enfin, notamment aux arts de groupe, hein, que ce soit la musique, le théâtre ou la danse, je pense. Mais après, c'était grandir dans la, finalement, Savoie, c'était avec la nature. C'est là aussi que j'ai découvert les grands espaces des montagnes et les insectes déjà dès à l'époque.
On va revenir sur les passions dans quelques instants. Si tu veux bien, je suis curieux de savoir s'il y a un mantra ou une phrase qu'a pu te dire un proche, parent, professeur ou autre qui a forgé l'homme que tu es devenu.
Pas le souvenir. J'ai eu plein de profs qui m'ont marqué, surtout en bio. Enfin, tout de suite, moi, c'est la bio qui m'a passionné. C'est les collectionner toutes les fiches d'animaux, c'est les émissions d'Alain Bougain-Dubourg à l'époque, donc de la Ligue de protection des oiseaux. avec qui aujourd'hui Insect travaille, j'en suis très heureux. Donc pour voilà, c'est juste comprendre le vivant. Enfin, encore une fois, c'est tellement de choses. Plus on la pousse et plus on trouve des nouvelles espèces et plus on trouve des trucs avec des formes bizarres, étonnantes et plus c'est passionnant. Et voir à quel point le monde est détruit. Et c'est peut-être quand on est petit, être assez misanthrope en disant c'est de notre faute, on détruit tout. C'est une cata, c'est la honte d'être un autre humain, quoi. C'était plus ça l'image que je pouvais avoir en tête. Et c'est en grandissant, en faisant mes études et notamment en arrivant à l'école d'agronomie qu'on apprend la relation entre l'homme et l'environnement, comment l'homme façonne son environnement depuis toujours et comment c'est une interaction et que l'important c'est aussi le bien-être, le bonheur humain qui est important à viser. Donc c'est pas l'homme contre la nature, c'est l'homme avec la nature, quoi. C'est l'ensemble qui compte. Donc ça, c'était effectivement changer. Donc les professeurs en bio, au sens du vivant, m'ont tous apporté la compréhension, jusqu'à d'abord mon prof de terminale, la géologie. Je pense que c'est la première chose qui m'a vraiment passionné, comprendre la Terre, finalement, du plus fondamental, comment la Terre s'est créée, justement, et après passer plus à la biologie et jusqu'à l'interface le plus complexe, finalement, parce que comprendre une cellule, c'est très important, mais comprendre l'interface entre des millions d'espèces entre elles dans un biotope, dans un écosystème qui est défini par les températures, par une élévation, par plein de choses, fait que ça, et qu'on ne comprend qu'un pouillème de tout ça, c'est vraiment passionnant. J'ai juste vu peut-être le dernier, pas vraiment prof, c'était mon médaille maître de stage en Nouvelle-Zélande, qui finalement... un peu en avance est longue, donc un Chinois implanté depuis très longtemps en Nouvelle-Zélande me disait à la fin de mon stage, je fais du stage plus 6 mois aussi de boulot d'ingénieur, que j'avais réussi à travailler dans ce centre de recherche qui est très international avec une vingtaine de cultures, à monter mon projet de recherche et elle le suivre en fait et à travailler avec plein de gens dans tout le laboratoire. Il m'a dit, t'as réussi à faire bosser des gens ensemble. Pour toi, je pense que tu sauras monter des projets et aligner les gens pour bosser entre eux. Et ça, c'est vrai qu'il m'a dit ça en 2007, avant que je crée l'association, avant que j'ai des vérités entrepreneuriales. Et finalement, j'y ai repensé il y a quelques temps. Je ne sais pas si j'avais vu juste, mais en tout cas, parce que je ne sais pas ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a réussi, pas réussi encore à ce stade-là, mais en tout cas, réussir à fédérer des gens autour d'une vision et d'une envie, déjà, ça, c'est effectivement une chose.
J'avais rencontré un entrepreneur qui étudiait la permaculture pour en faire un modèle en entreprise.
La permaculture, c'est quelque chose effectivement incroyable qu'on travaille dans l'association Camille avec Alexis. C'est pas la réponse parfaite. C'est juste l'agriculture. Ce qu'on disait dans l'association, c'est pas l'agriculture, c'est les agricultures avec un S. C'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est pas ce qui compte, c'est l'équilibre, la nuance, c'est la diversité. La diversité, c'est ça qui est essentiel, et la diversité pour tout. On le voit dans nos sociétés. Qui ont énormément besoin encore plus de diversité, mais on voit dans la nature qui c'est la diversité qui fait la richesse. Donc oui, je pense que c'est juste en train de perdre mon fil parce que
on parlait de permaculture et
on peut pas opposer, enfin la permaculture n'est pas la solution unique, c'est une nouvelle façon de faire l'agriculture qui est pas d'ailleurs nouvelle, hein, qui est très ancestrale, qui est complémentaire à une grande agriculture de grande culture qui est très exportatrice, avec celle de l'agroforesterie, avec l'agriculture biologique qui est pas forcément dans le système là. Enfin il y a plein de pratiques agricoles. Mais c'est fait que plus on en aura, plus elles sont diverses.
Il y en a des plus vertueuses que d'autres.
Oui, on peut se dire ça. Mais après, la révolution verte qui est en critique aujourd'hui par rapport à ces entrants chimiques et pesticides, elle a nourri le monde. Les gens mouraient de faim avant. Je veux dire, ils mouraient dramatiquement de faim.
Donc c'est important de rappeler ça aussi.
Enfin, c'est-à-dire que c'est fondamentalement, on a réussi, les agriculteurs ont réussi à nourrir le monde et notamment en France, ils ont fait une révolution absolument massive. Et donc leur mettre aujourd'hui, c'est les mettre sur leurs épaules les mots environnementaux, c'est absolument injuste. Ils ont fait ce qu'on avait, dont on avait besoin, la société avait besoin. Aujourd'hui, avant on mourait vraiment de faim, c'est-à-dire au quotidien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut mourir à long terme de cancer lié à la façon dont on produit? C'est pas encore d'ailleurs assuré. Le problème, c'est plus d'ailleurs les paysans qui manipulent les produits dangereux avant tout, et c'est eux qui sont exposés exposés les premiers avant les consommateurs, bien avant. Donc est-ce qu'on peut faire mieux aujourd'hui? Maintenant, mais tant mieux. Oui, évidemment qu'on peut faire mieux. Mais en fait, à l'époque, on pouvait pas faire mieux que de faire on a fait ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, on a justement la science qui permet d'adresser la complexité. Et c'est ça qui, encore une fois, qui est le plus difficile. C'est comment, voilà, avec des intrants, finalement, ça simplifie. Je fais une grande monoculture, ça simplifie. Donc j'arrive à produire des grands volumes et suivre la demande mondiale. Mais aujourd'hui, il nous faut plus de qualité. C'est comment je remets la complexité. Je remets justement des haies tout autour de la parcelle. Je mets des arbres au milieu, donc de l'agroforesterie. Comment je vais avoir plusieurs cultures en même temps, les récolter. Donc, il faut des apports technologiques, des apports scientifiques, comprendre le sol, comprendre le vivant global, pour faire, ça s'appelle l'agriculture écologiquement intensive. Je crois que c'est Michel Criffon, un grand scientifique de l'INRA, qui est un patron de l'INRA, qui avait pensé à ça. Et je pense que c'est ça. C'est pas intensifié par des moyens issus du pétrole et donc issus du passé et issus qui amènent des problèmes de réchauffement climatique et issus finalement d'un stock de toute façon qui sera fini, à intensifier la compréhension, ce que peut apporter le vivant qu'on voit et qu'on ne voit pas dans le sol, dans l'eau, les oiseaux, les insectes, etc.
Alors moi, je vois pas Olivier, mais je suis sûr qu'il a une question.
Oui, ben je trouve que déjà on est beaucoup dans l'inspiration et la multi-inspiration avec Antoine. Donc ce que je vous propose à tous les deux, c'est d'envoyer notre petit jingle sur cette rubrique que j'adore, qui est s'inspirer, respirer.
S'inspirer. Respirer.
C'est s'inspirer.
Voilà, parce que moi, je suis assez frappé par dans tout ce que raconte Antoine, par toutes les sources que tu cites, et donc on sent que tu lis beaucoup, peut-être que tu écoutes des podcasts, ça serait super, mais peut-être que tu regardes aussi des vidéos sur YouTube ou des documentaires. En tout cas, ça m'intéresserait et je pense que ça intéresserait beaucoup nos auditeurs de savoir comment est-ce que tu, avec tous les enjeux derrière INSECT, les enjeux industriels, les enjeux de développement international, les enjeux financiers, comment est-ce que tu fais pour continuer de t'inspirer, de respirer? Quels sont tes moments? Est-ce que c'est par le voyage, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment? Est-ce que c'est par des lectures? Et qu'est-ce que tu nous recommanderais pour continuer de comprendre le monde qui nous entoure?
À mon grand regret, le travail est tellement prenant que je lis beaucoup moins. J'ai tellement lu et tellement fait, effectivement, dans l'association de travail que ça va peut-être énervé pendant des années derrière. Aujourd'hui, je lis moins, je lis plus de presse économique pour mieux comprendre aussi ce que c'est, parce que j'y connaissais rien. Il faut savoir aussi comment on s'intègre et comment quelles sont des stratégies d'entreprise aussi pour réussir. Donc ça, effectivement, beaucoup plus que continuer à plus, on va dire, s'éduquer sur la science. C'est plus les sciences économiques que j'essaie de comprendre ces dernières années, parce qu'après, je pourrais passer mes journées à lire et les lire, etc. Et avant tout, il y a l'entreprise à côté, mais surtout la famille aussi de l'autre. Et hors de question, effectivement, de manger le temps. Et c'est aussi, je regrette de faire beaucoup moins de musique, de faire beaucoup moins de sport. Mais à un moment, il faut savoir gérer son temps. Et c'est ça le plus compliqué quand on est entrepreneur. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la seule chose qu'on n'achète pas, et c'est la chose qu'on peut pas rattraper. Donc il faut pas avoir de regrets. Je fais beaucoup de travail là-dessus, en travaillant avec des coachs, mais aussi en écoutant mes collègues entrepreneurs. C'est essentiel d'apprendre avec ses pairs. On a parlé il y a pas longtemps avec des collègues du Gagnon.
Tu peux partager quelques apprentissages là-dessus?
Non, voilà, récemment on a fait justement un séminaire juste avant le confinement avec quelques collègues du scale-up du Gagnon. Ouais. Justement, pour notamment gros sujet, c'était l'agenda du CEO, comment on arrive à être plus efficace. Donc voilà, c'est l'auto-enrichissement les uns des autres, de savoir comment on gère mieux son temps. Et j'arrivais là, c'est pas un truc miracle, j'avais fait quelques progrès, mais j'arrive à en dédier plus de temps aussi pour moi, pour travailler sur le fond de sujets stratégiques, tout en libérant un tout petit peu de temps à la fin, par exemple, pour refaire un petit peu de sport, continuer à améliorer mon anglais, parce que même si je me débrouille, je suis pas du tout anglophone, donc
je te coupe, hein, Antoine, mais on a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont cette même problématique de gestion du temps, d'organisation de leurs agendas. Quand même, un truc très concret que t'as mis en place, si tu t'es amélioré entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui.
Il y a deux choses fondamentales. C'est la première, c'est déléguer. C'est pour ça qu'il faut recruter meilleur que soi. C'est le truc le plus fondamental. Il faut recruter des gens hyper bons dans leur domaine et leur déléguer, leur faire confiance. Moi, j'étais frappé d'un questionnaire de BPI France auprès de milliers de patrons. C'était il y a un an et quelques, sur les trois grands sujets sur lesquels ils passent leur temps. Donc il y avait, je crois, l'opérationnel, la stratégie et je pense le management. Et il disait, c'est quoi le sujet où vous posez le plus de temps? L'opérationnel. Non, c'est plutôt lequel est celui où vous voudrez passer beaucoup moins de temps. Et tout le monde disait unanimement, l'opérationnel, je passe trop de temps. Et donc Pépé, il après demandait, mais pourquoi vous passez autant de temps là-dessus? Il disait, parce que je fais pas confiance, parce que j'arrive pas à déléguer. Et voilà, ça c'était dans tout type de boîte, depuis des boîtes familiales où peut-être les patrons qui ont occupé la boîte de leurs parents, leurs grands-parents, en fait, ils cèdent pas aux salariés, ils cèdent pas leurs équipes. Ils aiment pas lever du capitaux non plus et se diluer, etc. Mais aussi, même dans des startups ou dans des grands groupes, il y a ce problème de la confiance. Et je pense que, voilà, on est jamais parfait, on a tous des égos, mais on a envie qu'on ait pas trop de contrôler. Mais en fait, faut lâcher prise, quoi. Et surtout quand on est un entrepreneur jeune, c'est une évidence qu'on sait pas. C'est une évidence qu'on sait pas qu'il y a des gens qui savent mieux que vous. Par contre, il y a des choses, mais tous mes collègues du comité exécutif, ils savent très bien qu'il y a des choses que je fais, que je sais, ou j'ai l'intuition et la vision et le fait de connecter tous les éléments à l'intérieur de la boîte et avec l'extérieur de la boîte qui fait que j'apporte quelque chose qu'eux n'apportent pas. Donc on est complémentaires. Mais sans eux, je pourrais pas libérer du temps. Et c'est que les premières années d'INSEET étaient bien plus dures qu'aujourd'hui. Même si les allées de levée de fonds sont compliquées, sont difficiles, surtout qu'on a des enfants qui arrivent en même temps, c'est très très compliqué pour soi, pour sa femme, pour sa famille. Et c'est des moments difficiles. Mais derrière... voilà, si on délègue. Aujourd'hui, je suis dans un équilibre qui est bien meilleur parce que on a structuré la boîte beaucoup mieux en mode projet. Moi, je suis au bon endroit, a priori, au bon moment. Et je traque toujours le fait, est-ce que je suis encore au bon endroit, au bon moment? Est-ce que je dois pas laisser la place à des sujets? J'ai plus de sujets quasiment personnels, j'en ai quasiment plus. Peut-être encore un petit, quoi, mais c'est vraiment du management de mes équipes, de mon comité exécutif, des projets associés les plus critiques. Et après, c'est beaucoup de sujets stratégiques. Voilà, en ce moment, on a plusieurs des sujets passionnants, vraiment de stratégie de développement.
Dans des grosses annonces en janvier-février dont on ne peut pas parler.
Pas qu'en janvier-février. Ouais. Je pense que le 21, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pour nous, tant mieux. Mais voilà, donc je pensais ça. Puis après, c'est des petits trucs de gagner son... Enfin, bon, là, j'organise vraiment mon temps sur différentes thématiques, le galion, vous avez identifié, enfin, le temps à qui tu passes ton temps et sur quel sujet. Et j'ai classé mon agenda comme ça, avec des codes couleurs, et j'arrive à faire mon analyse de temps tous les mois, que je vais pouvoir m'en transmettre à mon comité exécutif pour montrer, voilà, sur quoi je passe mon temps. C'est quoi même priorité du mois, donc avoir un agenda explicite. Et d'ailleurs, je réserve mon vendredi après-midi sans aucun rendez-vous. C'est marqué en gros. Donc, on a une assistante, c'est clé aussi dans la gestion de son temps, hein, qui est pour notre comité exécutif, qui sait que le vendredi après-midi, j'ai pas de rendez-vous, sauf éventuellement des rendez-vous de coaching, sauf au dernier moment si j'ai envie de prendre des rendez-vous en plus. Mais ça me laisse le temps de travailler, notamment sur les sujets stratégiques qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Il faut que je respire un peu. Après ça, je fais du vélo et je fais un peu moins en ce moment, mais je venais tous les lundis matin à pied au bureau et c'est 1h15 le long de la Seine et ça permet de prendre du temps aussi et de prendre du recul.
Et tu as évoqué également tes enfants. Je me permets de rebondir là-dessus sans rentrer dans des considérations évidemment privées et intimes. Je ne sais pas quels âges ils ont, tu pourras nous le dire, mais combien de temps tu leur consacres et est-ce qu'à un moment donné tu rêves que eux soient entrepreneurs? Est-ce que tu as des rêves pour eux ou comment est-ce que tu leur ménages la liberté et ce que tu peux leur apporter? Qu'est-ce que tu vas leur laisser de cette aventure INSEET, en dehors peut-être des questions patrimoniales, hein, tout simplement, mais aussi qu'est-ce que tu as envie de leur laisser comme héritage, d'une certaine manière, et comme vision?
Je compte l'héritage, déjà. Non, c'est fondamental. Enfin, s'ils ont envie d'être entrepreneurs, etc., et enfin, on fera en sorte qu'ils aient jamais besoin, effectivement, sont dans une situation de besoin, mais il faut qu'ils se développent par eux-mêmes, c'est par eux-mêmes qu'ils se développeront. Ah, ils sont tout petits, hein. Le premier, il va avoir 5 ans, le deuxième, il a 2 ans demain. Donc on n'est pas, voilà, ce qui compte, c'est plutôt qu'ils me voient, c'est la première chose. Aujourd'hui, c'est passer du temps ensemble, c'est passer, les amener à l'école le matin, c'est ma femme qui les récupère on a une aide aussi, hein, et Nounou qui nous aide le soir après l'école, et puis, donc on pourrait faire toujours plus. Moi, je suis jamais satisfait du temps que je passe avec mes enfants, avec ma femme, j'aimerais bien faire plus. Voilà, ces 2-3 derniers week-ends, j'ai un peu de boulot parce que j'arrive pas à tenir dans le temps de la semaine, mais la plupart de mes week-ends sont quand même préservés, à part quelques mails par-ci par-là. Donc non, c'est hyper important ce temps-là. Donc c'est la première chose, c'est voir ça, c'est voir une famille qui fonctionne bien, du l'entrepreneur qui passe du temps avec ses enfants. Ma femme a un temps aussi, elle est responsable d'une entreprise, d'une structure professionnelle, elle a aussi énormément de boulot. Donc gérer le... C'est pas que gérer son agenda, c'est gérer un double agenda qui est pas simple. Donc voilà, les enfants, ils feront bien ce qu'ils veulent ou ce qu'on veut, mais ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux dans leur vie, quoi. Donc qu'ils fassent un boulot qui leur demande très peu d'études ou des études très longues. Je pense qu'on les pousse toujours à regarder, à s'émerveiller un peu autour de soi. Donc ils sont déjà le plus grand, connaît déjà quasiment. Plus d'espèces animales que moi, déjà. Ils absorbent tout, quoi. Ça qui est incroyable.
Alors justement, qu'est-ce que t'aimerais leur léguer comme leçon de vie? Je crois que ceux qui font les TEDx ont dit, si vous deviez mourir demain, vous avez 10 minutes pour partager quelque chose d'essentiel au grand public. Qu'est-ce que tu partages à tes enfants et peut-être plus largement sur la vie et ce que t'en as compris?
Faire des choses qui te plaisent et peut-être enfin quelque chose qui te sont utiles pour les autres. Je pense que c'est ça in fine, c'est qu'on se sent finalement satisfait si on a l'impression d'être utile pour les autres, quel qu'il soit, que ce soit pour sa famille, ses proches ou pour plus généralement. Donc parfois il y en a qui, je me disais avant, est-ce qu'il faut vraiment faire des gros sacrifices personnels pour être utile à d'autres. Je pense qu'il faut pas, encore une fois, être en contradiction. Il faut arriver à faire pour soi et ses proches et essayer d'aider, enfin, de contribuer à quelque chose de positif pour les autres. Sachant qu'on peut se tromper, on peut penser, on parlait tout à l'heure de la nuance, de la critique scientifique. Il faut s'y reconnaître. Peut-être qu'on peut se tromper et être engagé dans un sujet, puis se révèle quelques années après n'être pas le bon sujet. Donc, c'est pas facile aussi.
Pour être utile, il y a une secte, entre autres, et pour faire ce qui te plaît, il y a des passions, et on a une question d'un de tes amis qu'on écoute.
Vous avez un message.
Coucou Antoine, c'est Xavier. Alors j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une de tes passions ? Une de tes passions, alors pas ta passion pour Mylène Farmer, une autre de tes passions.
Il rougit.
Qui t'a sans doute d'ailleurs conduit à ton métier actuel.
Non, je dis bon, merci Xavier
Duporter,
très grand entrepreneur aussi, français, hyper engagé pour l'écosystème avec Hello Tomorrow notamment. Et on a des super discussions très souvent ensemble. Il y a tout un réseau de copains dans la biotech, la medtech. Et on voit qu'il y a plein de boîtes françaises qui créent des sujets justement de fond importants. Donc non, farmer, parce que c'est farm, c'est élevage, c'est ferme, c'est juste le jeu de mots. On n'a aucune passion pour Mylène Farmer du tout. C'est pas le genre de musique que justement j'ai pu pratiquer dans le passé. Non, les passions, justement deux. Je pense c'est les insectes. Oui, c'est ce qui m'a toujours, enfin dans le vivant, c'est une chose qui m'a le plus émerveillé. Dans les montagnes savoyardes, aller chasser des papillons. Les attraper avec ma mère, finalement les garder, les mettre en valeur dans des jolies planches que j'ai encore chez moi. Je pense qu'au bout de quelques années, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que les attraper, finalement, c'était les tuer. Donc, c'était peut-être pas très si vertueux que ça. Et donc, je me suis mis plus à la photo. Et je suis passionné par la photo et la photo micro, de prendre un tout petit.
C'est une autre manière de les figer.
Voilà, une autre manière de les figer, un peu plus sympa, voilà, et un peu plus responsable. Mais même si ça peut être un peu fatigant pour ceux qui sont avec moi, parce que s'il faut rester à l'affût, ça peut rester pendant longtemps pour prendre l'insecte qui ne bouge pas. Donc premièrement, ma femme est extrêmement patiente dans les voyages qu'on peut faire pour attendre encore 5 minutes, il faut que j'arrive à m'approcher de cet insecte pour le prendre en photo de près.
Il y a moins de papillons quand même qu'avant.
Il y a moins de papillons qu'avant, c'est vrai. Enfin, je pense que tout le monde parle sur les essuie-glaces, sur les pare-brises, on écrase moins de d'insectes qu'on descend dans les vacances dans le sud. Non, c'est évidemment, c'est un vrai sujet. On parle d'apocalypse des insectes. Voilà, ça amène à la disparition plus forte de d'oiseaux. Donc oui, on voit bien que les pratiques, la pollution industrielle des villes et agricoles, elle a un impact effectivement fondamental aussi sur les insectes. Donc il y a besoin de sensibiliser. Je pense que j'espère qu'un insecte aussi a son rôle de sensibilisation sur l'importance des insectes et le rôle clé qu'ils ont dans l'écosystème, dans le vivant au sens large. Ils sont la base de la chaîne alimentaire, mais ils font tous les services fondamentaux de pollinisation, de recyclage des déchets organiques dans le sol, et sans eux on n'irait nulle part. Et ils sont bien plus anciens que les dinosaures, hein. c'est 300 millions d'années je crois les insectes, hein. c'est pas d'hier, donc c'est le fruit d'évolutions extrêmement pointues pendant très longtemps qui font qu'ils sont là, extrêmement adaptés, mais ils sont pas adaptés à des changements peut-être aussi rapides et brutaux. Donc non, c'est je pense que c'est voilà, une passion pour ça. Puis la deuxième, c'est vraiment la musique. Moi, je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, les arts. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour l'épanouissement d'un individu. Ça devrait être encore plus enseigné à l'école. Et c'est une façon de vivre ensemble, d'apprendre ensemble et justement de créer du groupe. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans plein de groupes de musique différents, des styles extrêmement variés et d'innover dans certains, donc en mélangeant du métal, du hard rock avec de l'accordéon. Ça a été un des groupes avec qui on a le plus joué pendant très longtemps.
Qu'on peut retrouver sur Spotify, Deezer,
non,
ça n'existait
même pas Spotify, Deezer à l'époque. Ça n'existait pas. On était sur des plateformes. C'était quoi les toutes premières plateformes MySpace, je pense qu'il doit avoir un truc sur MySpace.
Ça s'appelle ouais.
Elle s'appelle Stalfish.
Stalfish.
Voilà, tout ça, poisson pourri, exactement. Donc, c'est déjà une histoire de poisson. on savait pas comment trouver un nom. Je trouve qu'on l'a pris quasiment au hasard dans le dictionnaire. On n'était pas très inspirés à l'époque. Mais avec
Beatles, c'était déjà pris.
Peut-être. Les Beatles, c'était déjà pris. Et finalement, ces quatre copains, on est toujours hyper, on est toujours très proches. On est 3 sur 4 à entrepreneurs. 3 sur 4 à être entrepreneurs. Le dernier, on espère qu'il le sera. Moi, je serais qu'il le serait, mais c'est un batteur, donc il manque plus de temps.
Tu jouais quoi, toi?
Moi, la basse. J'ai toujours la basse, même si j'ai fait depuis un peu de la percu, de la clarinette, et justement, là, t'es intéressé. Je regrette surtout pas avoir plus de temps à apprendre plus d'instruments. Il y a tellement d'instruments passionnants. Et donc, du coup, jouer ensemble, ça permet d'être autour d'un projet qui peut être, on a fait des enregistrements, des CD, ça peut être jouer des concerts, donc ça il faut répéter, il faut s'organiser, ça, c'est un leadership de groupe, certains prennent plus de leadership que d'autres, et puis surtout qu'on compose, qu'on crée des chansons ensemble, ben, en fait on crée une sorte de, un produit qui va trouver son public ou pas, et donc je trouve que c'est effectivement très, moi ça a été, enfin a posteriori, j'ai énormément appris dans tous ces groupes, en Savoie, Paris, en Martinique, en Nouvelle-Zélande, en Bretagne. Avec des tonnes de gens qui sont des amis très proches toujours parce que la musique continue à rapprocher et...
J'ai une question d'ailleurs à ce sujet qui est Antoine qui est sur le, souvent on dit qu'il y a des ponts entre la science et la musique et je me demandais en fait si d'un point de vue scientifique la musique t'intéresse aussi. Est-ce que par exemple on l'a dit dans la culture que la musique peut jouer un rôle sur les plantations agricoles ou sur certaines plantes. Est-ce que vous n'avez pas essayé de faire des... C'est vraiment la question stupide du jour. Est-ce que vous n'avez pas essayé de mettre de la musique pour développer les insectes? Est-ce que ça peut avoir un rôle?
On a pensé, on n'a pas encore eu le temps de mettre les protocoles expérimentaux en place, mais oui, c'est une question de fréquence, d'onde, et voilà, il y a des théories, la création du monde autour de la théorie des cordes, c'est les questions de... Question fondamentale, la pulsation, finalement, la pulsation du monde, de l'univers. Et donc, oui, je pense qu'il y a forcément des choses liées autour des fréquences, des ondes qui seraient positives pour nos insectes. Et la musique adoucit les mœurs, peut-être qu'elle adoucira effectivement aussi nos insectes pour encore, qu'ils soient encore plus épanouis dans nos fermes. C'est un rôle essentiel. La musique, la créativité, toujours dans le développement de l'homme, dans son émancipation dans les derniers siècles, depuis toujours, la rythmique, la mélodie. Et je pense vraiment qu'une fois, c'est une école de l'entrepreneuriat. Et si j'avais le temps, créer des écoles de musique, pour aussi lier entrepreneuriat et musique d'une certaine façon, apprendre à vivre ensemble aussi, encore un peu plus, dans un monde de plus en plus divisé.
Tu es, je crois, notre deuxième musicien parmi les... Alors, tous se sont peut-être pas livrés sur leur passion musicale, mais on avait également Frédéric Mazella qui...
Au piano, ouais.
Ouais, notamment. Olivier, c'est le moment de la claque, si ça te va.
Oui, en effet, on a cette petite rubrique, Antoine, qu'on te réserve, parce qu'il faut savoir que quand on t'écoute parler, et c'est souvent le cas des entrepreneurs, on voit tous les aspects positifs, le succès. Et donc, parfois c'est même intimidant pour les auditeurs de se demander est-ce qu'il a connu que des succès. Et moi j'ai toujours trouvé aussi en tant qu'entrepreneur que c'est intéressant de reconnaître ses échecs. Tu as dit d'ailleurs qu'il fallait se tromper. J'ai entendu ça dans tes explications tout à l'heure. Donc on va te lancer le petit jingle la claque et tu vas pouvoir réfléchir et partager avec nos auditeurs un moment peut-être d'apprentissage à travers un échec que tu aurais pu connaître.
Wow. Même pas mal.
Pas mal. Un échec. On passe son temps à se tromper dans une start-up, dans n'importe quel, un peu toujours, mais c'est ce qui compte, c'est qu'il y a plus de réussite que d'échecs au quotidien et qu'on essaie de ne pas faire deux fois la même erreur. Donc, et il ne faut pas que en plus ce soit une erreur qui soit absolument fondamentale, qui remet tout en cause, comme mettre un produit sur le marché, j'en sais rien, qui est dangereux et que du coup des gens se blessent avec ou en sont malades, etc. Là, ça serait une erreur fondamentale. Non, on a fait plein d'erreurs sur, je sais pas, dans certains choix. On savait pas forcément tout aussi au début, mais on était très accompagnés. On a raté des financements au début, ça a été compliqué. Du coup, au départ, c'était le démarrage de l'entreprise n'était pas simple. Qui est le plus dur finalement, encore une fois, c'est l'humain. Enfin, faut reconnaître qu'on se trompe. On peut se tromper quand on recrute des gens. Parce que c'est pas la bonne personne et qu'il y a rien de personnel, mais parfois aussi on se rencontre tard et ça peut avoir des effets, des pas très bons effets finalement dans la dynamique d'un groupe. Donc ça c'est pas simple. On peut regretter effectivement d'avoir écouté certaines personnes et ne pas avoir reçu aussi peut-être plus tôt, plus courageusement leur dire qu'il était temps effectivement qu'ils s'en aillent. Voilà, ça
c'est premiers dilemmes ça quand on débute sa vie d'entrepreneur.
Bah, on ne sait pas faire ça du tout. Enfin, on n'a pas été un manager entre guillemets, ou un gestionnaire dans le passé, d'apprendre ces choses-là. Et ben le fait déjà qu'on le soit, on a toujours été quatre au début et puis qu'on ait d'autres patrons qui nous ont rejoints, directeurs, ça nous a aidés aussi. Mais d'être à quatre et se retrouver, c'est dire est-ce qu'on se trompe pas effectivement. Je pense que c'est souvent dans l'humain. Enfin, on a fait plein d'erreurs techniques, on a fait plein d'erreurs scientifiques, on a eu des moments des fausses désespoirs, déçus rapidement de prouesses qui non n'était pas du tout. Donc non, je pense que l'échec, je sais pas. Par contre, des difficultés, oui. Je pense que le plus dur, ça a été, je le disais tout à l'heure, la gestion familiale et les financements au même moment que la naissance de mes deux enfants, c'était extrêmement dur pour moi, pour ma femme aussi. Et c'est pas des moments qu'on a envie de revoir, de revivre. Même si c'était in fine, ces moments hyper joyeux la naissance, mais hyper tendus de closing, de signature, etc. en parallèle, de négociations, qui une fois in fine sont positifs. On a juste pas envie qu'ils se superposent, en fait, parce que du coup, c'est pas l'un ou l'autre. Et donc à côté de ça, même si j'ai passé du temps, et c'est aussi pour ça qu'on a poussé, j'ai poussé tout de suite et mes collègues m'ont suivi pour la création d'un congé paternité pour prendre du temps justement, que les pères passent du temps avec leurs enfants. Et ça c'est une absurdité que j'ai pu réaliser en me rendant compte à la naissance de mon premier que j'allais devoir rester que 11 jours chez moi avant de retourner au boulot.
Vous êtes plusieurs entrepreneurs hein, du Next 40, mais pas que, avoir milité pour
tout. Et nous, là, aujourd'hui, c'est 10 semaines qu'on paye hein, de congé paternité. 10 semaines à 100%. C'est avec le père à la même durée de congé que la mère pendant 10 semaines, 100% payé par l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 4 semaines maintenant payées par l'État, donc tant mieux, ça va dans le bon sens, mais on continue à payer 10 semaines. Et c'est la base justement d'équilibre femme-homme. Hein, si c'est de aujourd'hui être capable, qu'un responsable, il verra que il y a des jeunes femmes qui partent en congé maternité, mais aussi des jeunes hommes aussi. Et donc il y aura plus les promotions que pour les hommes, parce que les femmes s'en vont, des carrières à trous. Les hommes auront aussi des carrières à trous.
Donc
tout le monde égalité de traitement face à la promotion dans l'entreprise, face à l'égalité salariale. Et demain, j'espère aussi que ça aide sans prétention, mais en tout cas à la libération un tout petit peu de la charge mentale qui pèse tellement sur les femmes, le fait que les hommes soient chez eux à la naissance et prennent des rythmes, des habitudes, voilà, en passant du temps avec leurs enfants et en n'étant pas que c'est pas que la femme qui va tout gérer dans les achats, dans la gestion de la maison, etc. D'être présent au début, j'espère que ça contribue justement à mettre des nouveaux repères, des nouvelles bases qui fait qu'il y a aussi un meilleur équilibre de relations femmes-hommes à la maison. Mais bon, c'est peut-être très extrêmement optimiste et prétentieux de penser ça, mais j'espère que ça y contribue.
C'était la carte blanche d'Antoine Hubert d'Insect. Et du coup, une transition parfaite, hein, Olivier, sur notre dernière rubrique, la rubrique Sista.
Oui, on aime bien donner, Antoine, la parole aussi, ou en tout cas un coup de projecteur sur les entrepreneurs les entrepreneurs au féminin, parce qu'on voit que dans Next 40, on a assez peu de femmes. On a eu Julia Bijaoui de Frisch Team, et finalement, il y en a assez peu qui sont arrivés encore à ce niveau de succès qui fait les 40, les 40 startups les plus grosses de l'écosystème de la French Tech française. Donc, on va te demander de citer et de mettre en avant une entrepreneur, un projet, et on pourra ensuite te demander pourquoi, et surtout aller lui poser une question en ton nom, qui sera ensuite un podcast à part entière.
Merci, c'est que c'est important. On est beaucoup trop masculin encore, et il y a quand même des beaux exemples dans la tech. On voit de Lucie Bache dans Too Good To Go, dans le gaspillage alimentaire, contre le gaspillage
alimentaire. On a déjà eu d'ailleurs en Sista,
j'imagine. Ouais. Sandra Redon-Lowy, effectivement. Ouais. Donc il y a quelques entrepreneuses emblématiques, mais en fait elles sont beaucoup trop peu nombreuses. Et donc, moi, je pense à une copine qui s'est lancée depuis quelques années dans l'agriculture, justement, locale, enfin, l'alimentation locale, Charlotte Trossa à Avignon, qui récupère des fruits et légumes un peu abîmés, des écarts de production pour contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire et pour en faire des produits bio. Pour justement des soupes, des produits de conserverie, etc. Et voilà, c'est local, c'est bio, c'est durable et c'est voilà, c'est génial. Elle fait des très bons produits, très bons. Et c'est vrai que c'est pas facile effectivement, en plus dans une entreprise qui n'est pas une entreprise vue comme technologique. Du coup, pour notamment des solutions du financement, la croissance et d'être ne pas être trop absorbé par son travail, parce qu'il y a une usine à faire tourner, il y a des équipes, etc. Donc on le voit à plein de sujets que je vois aussi au quotidien. Donc voilà, moi je trouve que c'est génial. Il faut acheter ces produits. On les trouve dans des magasins bio en France.
Local en bocal.
Local en bocal, tout à fait, oui.
Si tu avais une question qu'on lui posera en ton nom avec notre associé Solène Etienne.
Ah, il n'est pas réfléchi. une question. Alors, c'est difficile. Enfin, il y a plein de choses. Comment elle se voit dans quelques années? Qu'est-ce que tu l'as porté finalement? Dans quelques années, si elle fait le bilan, c'était quoi pour elle finalement de l'entrepreneuriat? Pourquoi elle s'est lancée, qu'est-ce qu'elle en a retiré. J'ai pareil aussi, c'est difficile. Enfin, j'ai géré une famille avec un tel engagement, avec son mari aussi qui travaille beaucoup. Donc, comment elle fera le bilan de tout ça, peut-être dans quelques années, si un jour, s'il aura envie d'arrêter, s'il aura envie de faire autre chose. Qu'est-ce qu'elle aura retiré finalement de cette expérience?
Eh bien, cette question, on va lui poser dans un podcast qui lui sera dédié. Avant, on avait la chance de les avoir, on les intégrait dans le podcast de nos invités, mais finalement, on leur donnait que 6 minutes de parole pour tous ces beaux projets. On n'était pas encore assez satisfait de nous et notre manière de mettre plus de femmes en lumière à travers 40 nuances de Next. Donc, on va lui donner la parole. On est ravis de te l'avoir donné à toi, Antoine. C'est un plaisir d'échanger à tes côtés.
Merci, je m'associe au remerciement de Thomas. J'ai trouvé ça passionnant, j'ai appris plein de choses sur un secteur où en général on parle beaucoup uniquement de numérique, et là on a parlé d'industrie et d'alimentation, donc on s'est projeté dans un monde futur peut-être un peu plus ouvert et très différent et un peu en disruption avec nos habitudes de 40 minutes de Next.
Si je peux dire un dernier mot, je pense que c'est si pour tous les jeunes qui veulent monter des boîtes, il y a tellement de sujets, tellement importants pour résoudre les grands problèmes, contribuer à résoudre ces problèmes-là. S'ils peuvent se consacrer à ça, comment mieux manger, comment mieux se nourrir, comment mieux se déplacer, tout en ayant moins d'impact, plutôt que se jeter sur le développement d'applications qui peuvent être sympas à court terme, on ne sait pas ce que ça va, enfin très vite abandonner par un consommateur versatile. Pensez à ça, enfin et voilà, comment être utile et comment créer de l'impact. C'est, je pense, on a besoin de vous.
Eh bien, nous, on a besoin de partager des messages comme le tien. Un grand merci à toi, Antoine, encore une fois, et salut à ton associé. D'ailleurs, il nous entend. Donc, bonjour à toi, Alexis. Tous tes associés, d'ailleurs. Merci à tous.
Merci.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.